Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, vous êtes au courant évidemment de cette coalition formée par Catherine Dorion de Québec solidaire pour assainir le débat public, pour mettre fin aux médias toxiques, aux injures et aux insultes dans l'espace public. C'est pour ça que j'ai été assez étonnée de voir que un attaché politique de Québec solidaire qui est responsable du numérique, qui sur sa page Facebook il y a quelques semaines de ça, traitait Jean-François Lisée, chroniqueur au Devoir, de moron et d'idiot dangereux. Tu sais, c'est bizarre, il me semblait que c'était pas bien en lancer des insultes et lancer des injures envers le camp adverse. Donc, j'ai dénoncé cette situation-là sur les médias sociaux hier. L'attaché politique de Québec solidaire s'est excusé, mais il reste quand même que quand on est à Québec solidaire et qu'on dit aux autres « c'est fini les insultes, c'est fini les injures », on devrait peut-être se regarder dans le miroir avant de poser ce genre de jugement. Quand j'ai vu ça hier, j'ai poussé un grand « ben voyons donc ».
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Si vous êtes pris de COVID-déprime ou de COVID-détresse ou de COVID-dépression, je vous encourage à lire la plus récente chronique de mon collègue Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie et chroniqueur au Journal de Montréal. Je pense que sa chronique va vous remonter le moral. Pourquoi? Parce qu'il nous donne 4 raisons de rester optimiste. Oui, il faut être optimiste. Docteur Béliveau, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, vous-même?
Ben écoutez, moi, ça allait déjà bien dimanche, mais lundi matin, hier, quand je me suis réveillée et que j'ai lu votre chronique, je me suis dit, ben, le docteur Béliveau nous donne 4 bonnes raisons d'être optimiste. Alors, pourquoi vous avez voulu écrire ce texte-là, docteur Béliveau, pour commencer?
Ben, exactement pour la raison que vous venez d'évoquer. je trouvais qu'avec la semaine dernière, on était dans une période de déprime existentielle, là, avec les nouvelles qui sortaient à gauche et à droite. Et je pense que en recherche comme dans la vie, c'est important de faire des bilans à des moments donnés, puis de regarder pas juste où on va, mais d'où on vient. Et qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers mois, les derniers 6 mois, la dernière année, et comment est-ce qu'on a progressé. Puis et quand on fait ce bilan-là pour la COVID, je veux dire, le bilan est tout à fait exceptionnel. Je vous rappelle qu'on est dans la 8e pire pandémie de l'histoire de l'humanité, là. C'est pas n'importe quoi. Ça n'a d'équivalent qu'avec la peste bubonique puis les épidémies de peste au 14e siècle, tout ça. Je vous rappelle que la pandémie de variole, ça a duré 500 ans. On a éradiqué la variole qu'à la fin du 20e siècle, ça a duré 500 ans. Donc, c'est qu'on ait réussi à créer des vaccins, pas juste à les créer, à les inventer. Là. Les vaccins ARN, ça n'existait pas. On a réussi à les créer. On a réussi à les produire avec l'industrie pharmaceutique en grande quantité, avec des milliards de doses. On a réussi à les tester dans 3 phases d'essais cliniques. Normalement, j'en fais, moi, des essais cliniques. Ça prend des années, quelquefois des décennies, avant de terminer ces essais-là. On a réussi à faire des essais cliniques en 1 an. On a réussi à les distribuer à l'échelle internationale. On est en train de les administrer au niveau national. On a le quart de la population du Québec qui est vaccinée. C'est absolument hallucinant. Juste pour ça, là, on devrait être très, très fiers de ce que, comme humanité, on a réussi dans 1 an avec un virus dont on ne connaissait absolument rien il y a 15 mois, là.
C'est très intéressant ce que vous dites, puis j'aime beaucoup l'optimisme qu'il y a dans votre voix, et ça, c'est un petit peu le bon vieux dicton: quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, parce qu'on peut peut-être, si on est à courte vue, regarder par exemple la situation en Ontario en se disant « oh mon Dieu, ça va pas bien », regarder la situation en France, « oh mon Dieu, ça va pas bien », regarder la situation en Inde, mais il faut prendre un pas de recul et regarder l'ensemble de la situation et surtout se comparer à où on était, mettons, le 13 mars 2020. Donc, c'est fulgurant la vitesse à laquelle on a réussi tout ça.
Oh, c'est fulgurant. Il n'y a aucun équivalent à ça dans l'histoire de l'humanité. Là. Je veux dire, ce n'a d'équivalent que la découverte de la pénicilline
par Fleming
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, on était dans la Deuxième Guerre mondiale. On a sauvé des vies, mais ça n'a jamais eu cet impact-là. On n'était pas d'une pandémie. Là, on est d'une pandémie. Et tout d'un coup, on a déjà, il y a plus d'une centaine de vaccins en essai clinique. On l'oublie, mais les vaccins chinois, les vaccins russes fonctionnent très bien à l'échelle internationale. Ils sont distribués partout. Il y a plus d'une centaine de vaccins en essai clinique. Et il y en a quatre qui vont être disponibles au Canada, qui fonctionnent remarquablement bien. Moi, quand j'entends les gens paniquer avec les effets secondaires d'AstraZeneca, là, écoutez, les chiffres, là, si vous avez le vaccin d'AstraZeneca, c'est 1 à 4 cas par 1 million de personnes. Alors que si vous attrapez la COVID, pour 1 million de personnes qui attrapent la COVID, c'est 165 000 cas de caillots. 1 à 4 versus 165 000 si vous attrapez la COVID. Fait que, écoutez, le risque zéro, ça n'existe pas. Là. Si vous avez le vaccin d'AstraZeneca, c'est 0.0004% de chance de faire des caillots. Mais si vous êtes aux soins intensifs avec la COVID, c'est 20% de faire des caillots. Si vous êtes hospitalisé avec la COVID, c'est 5%. Si vous êtes infecté avec la COVID, c'est 1%. C'est une personne sur 5 qui fait des caillots. Donc, 0.0004% pour l'Astra. Là, écoutez, c'est un... Il n'y a pas d'ambiguïté. Là, les vaccins, il y a eu des millions de doses de vaccins données au Canada. Il n'y a aucun décès attribué au vaccin. La priorité, là, avec les mesures d'hygiène, de distanciation de masse, c'est de se faire vacciner au plus vite. Et c'est comme ça qu'on va venir à bout de cette pandémie-là. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Dans une pandémie virale, la solution, c'est la vaccination.
Hier, j'ai fait une entrevue avec le politicien Maxime Bernier parce qu'il a déclaré la semaine dernière, le chef du Parti populaire du Canada, il a déclaré la semaine dernière « Moi, je ne me fais pas vacciner parce que j'ai 58 ans et je suis en pleine forme. Et si jamais j'attrapais la COVID, j'ai juste 0.005% de chance d'en mourir. » Qu'est-ce que vous voudriez répondre à quelqu'un comme Maxime Bernier?
Ben, je pense qu'il faut le combat contre un virus, c'est un combat de société. Il faut que tout le monde s'implique.
Bien dit.
C'est à l'échelle au niveau de la société et au niveau mondial. Là, on est en train de faire des stratégies nationales, mais aussitôt que les populations des pays industrialisés vont être vaccinées parce qu'ils ont plus d'argent de mieux acheter les vaccins. Ça, la priorité, ça va être de vacciner le reste de la planète. On a éradiqué la variole quand on a réussi à éradiquer tous les derniers foyers qui restent. Chaque être humain est un bouillon de culture pour un virus. Et il s'agit qu'il y ait une personne qui permettent la reproduction d'un virus donné pour qu'apparaissent des mutants qui vont donner naissance éventuellement à une réapparition d'une pandémie. Donc, il faut, quand on parle de vaccination, que ce soit le maximum, sinon 100% de la population qui soit vaccinée, pour qu'à long terme, on réussisse à contrôler ça. Donc,
on ça, regarde c'est intéressant.
Les catastrophes. Regardez Israël, un succès total, là. C'est le pays. Je vous rappelle que dans les autres bonnes nouvelles, le Québec se situe en sixième position en termes de pourcentage de personnes vaccinées par rapport devant, juste derrière les pays, certains pays arabes, derrière Israël, derrière l'Angleterre, et ainsi de suite. On est en sixième position. En Israël, le pays où il y a le plus de gens vaccinés, les taux de réduction de la maladie, des décès, c'est plus de 90, 95, 98% de réduction. Ça prouve que la vaccination, avec les vaccins qui sont présentement disponibles, fonctionne remarquablement bien. Et à l'opposé, on a le Brésil, qui est une catastrophe politique. Ils n'ont pas pris de mesures sociales, ils n'ont pas été proactifs comme on l'a été ici. Ils n'ont pas été disciplinés au niveau populationnel, ils ont été irresponsables au niveau politique. Puis on a une catastrophe absolument hallucinante. Ça va être un des pays qui va le payer le plus cher, leur indiscipline et leur manque de vision d'un point de vue de la gestion de la santé publique. Donc, on a déjà des exemples, là, même si la pandémie n'est pas finie, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire.
Oui. Alors, je veux revenir sur ce que vous dites parce que je trouve que c'est important. Donc, C'est vous dites c'est un combat de société, puis en même temps vous dites donc chaque être humain est un bouillon de culture, donc même si mettons on arrive à 99% de la population qui est vaccinée, s'il y a 1% qui reste récalcitrant, ce 1% là peut causer des torts aux 99% d'autres qui eux se sont fait vacciner, c'est ça que vous dites?
Oui, théoriquement, c'est ça. Évidemment, plus vous avez de la vaccination, moins vous avez de possibilités de distribution, d'étalement du virus. Je vous rappelle que on a réussi à contrôler des toutes sortes de virus, la rougeole et d'autres. Mais tous les virus mutent, c'est pas juste les coronavirus qui mutent.
Non, non.
Tous les virus. Un virus, ça ne fait que se reproduire. Hein. Vous n'existez pas pour un virus, vous êtes une occasion de reproduction. C'est simplement ça, là. Un virus, c'est du matériel
génétique. On voit l'image.
C'est juste quelques gènes, un virus. Hein. Vous savez, le génome humain, c'est plus de 20 000 gènes. Les bactéries, c'est plusieurs milliers. Mais un virus, ce n'est que quelques gènes. Et tous ces gènes-là, parce que le virus, c'est un parasite. Il se sert de votre machinerie de production de protéines et de à l'intérieur de vos cellules pour se reproduire. C'est un parasite absolu. C'est l'exemple absolu du parasite, le virus. Et il ne vous considère pour rien, pour absolument rien, là. Vous pouvez être une vache, un pangolin, une chauve-souris, un être humain. Pour lui, vous n'êtes qu'une occasion de transmettre ses gènes. Les virus mutent constamment. Et ce qu'il faut, c'est réduire la probabilité que les virus mutent à l'échelle mondiale. Et dans un premier temps, commencer par contrôler ce qu'on peut contrôler. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je dis aux gens, soyez très, très fiers de ce que vous avez fait au Québec dans un an, la discipline dont les citoyens ont fait preuve. C'est remarquable. On l'oublie, on a souffert, mais on a réussi à contrôler ça. On partait avec deux prises au bâton, là. Avec les CHSLD, là. On partait très mal, puis on s'est rattrapé, puis les Québécois ont fait une preuve extraordinaire de solidarité sociale. On est fatigué, on est déprimé, on a souffert, mais on a réussi à contrôler ça. Et là, les chiffres sont bons. On était à 100 morts par jour il y a un an, puis là on était entre 5 et 12 morts par jour. On a réduit d'un ordre de grandeur le nombre de décès, les hospitalisations et tout. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison entre là où on était il y a un an et là où on est présentement. On connaît mieux la maladie, on sait que c'est une maladie qui cause des désordres vasculaires, qui cause des désordres de coagulation, qui cause des désordres inflammatoires. Et on a des médicaments pour traiter ces problèmes-là. On n'a pas de médicaments contre le virus, mais on a des médicaments contre les conséquences cliniques que donne l'infection par ce virus-là. Et ça, il y a un an, on ne le savait pas. On observait toutes sortes de désordres qu'on ne contrôlait pas cliniquement parce qu'on ne comprenait pas biochimiquement comment est-ce que le virus nous rendait malade. Et là, on le comprend. Il y a eu des milliers de publications de fait sur les mécanismes d'infection du virus. Et là, on a une compréhension scientifique de l'infectiosité des mécanismes biochimiques et cellulaires par lesquels le virus nous rend malade. Et on contrôle ça également. On a produit pas juste des vaccins, mais on a produit des anticorps monoclonaux qu'on peut administrer à des patients qui développent la COVID s'ils n'ont pas été vaccinés.
D'accord.
On reproduit en laboratoire avec des anticorps monoclonaux ce que le corps normalement donnerait suite à une vaccination. Ces médicaments-là existent. Il y a Eli Lilly puis Regeneron qui ont produit des anticorps monoclonaux contre le coronavirus et ils sont en phase d'essai clinique puis certains sont approuvés. Donc, il y a eu des progrès de ce côté-là également. Là.
Donc, même si quelqu'un n'a pas été vacciné contracte la maladie, on est en train, même à ça, de trouver une solution. Puis, la grosse inquiétude qu'on a face aux variants et à la possibilité que les vaccins ne soient pas efficaces, vous, même ça, vous mettez ça dans la catégorie des bonnes nouvelles et de l'optimisme, parce que vous dites les vaccins sont efficaces face aux variants, fait que même si j'essayais de vous rendre déprimé aujourd'hui, j'y arriverais pas, docteur Béliveau, là, vous êtes vraiment optimiste sur tous les fronts.
Non,
Non?
Oui, parce que ce que la science dit, les études l'ont montré, les vaccins pour le variant britannique, là, les vaccins fonctionnent très, très bien. Il n'y a, mm-hmm. a pas de problème. Les études ont été faites là-dessus. Puis pour le variant sud-africain, la même chose, il y a des vaccins qui fonctionnent mieux que d'autres, mais l'ensemble des vaccins fonctionnent parce que tous les vaccins qui sont disponibles présentement ont été développés avec la protéine S des spicules, là, des petites pointes mm-hmm. qu'il y a sur le virus. Et c'est cette protéine-là qui permet au virus d'infecter nos cellules, de pénétrer. C'est la clé moléculaire qui permet au virus de rentrer D'accord. dans les cellules. Et quand vous injectez cette protéine-là, votre système immunitaire produit des anticorps contre cette protéine-là et il empêche la clé de rentrer dans votre serrure cellulaire pour vous infecter. Si le virus se met à essayer d'échapper au système immunitaire, aux anticorps, en mutant cette protéine-là, il est dans un cul-de-sac évolutionnel parce qu'il va en même temps s'empêcher de pénétrer dans nos cellules. C'est la raison pour laquelle la conception des vaccins et les taux d'efficacité des vaccins qui ont été créés sont aussi élevés parce que au départ, c'est pas des vaccins qui ont été faits avec l'ensemble du virus. Puis là, on a toutes sortes d'anticorps contre toutes sortes de portions du virus. Ces vaccins-là ont été créés de façon extrêmement intelligente en ciblant le point faible du virus qui
voilà.
est sa voie de pénétration. Donc, on a au niveau conceptuel une approche très, très, très rationnelle qui nous permet d'être... C'est sûr qu'il va y avoir des mutants, il va peut-être en avoir des plus virulents, plus infectieux qui vont apparaître, mais à date, ce qui est apparu, et oui, c'est ça, comme vous le dites, on a avec les vaccins ARN la capacité de produire... Un laboratoire comme le mien, dans une semaine, on est capable de produire une séquence pour faire un vaccin ARN. Qu'en une semaine, là, c'est ce que Moderna a fait, c'était en quelques jours. C'est comme
incroyable.
Ça que ça fait. Et on est capable d'aller tout de suite, traditionnellement, lorsqu'on faisait des vaccins, il fallait faire pousser les virus dans des cellules, en culture ou dans des œufs ou toutes sortes de façons. Ça prenait du temps, c'était compliqué, c'était pas les virus qui poussaient bien. Là, avec l'approche ARN, l'approche de génétique moléculaire, à partir du moment où on a la séquence génétique, la séquence d'ADN, d'ARN, dans ce cas-ci pour les coronavirus qui donne tel variant, on est capable de produire une séquence qui correspond à ça et de faire un vaccin à partir de ça. Donc, on va être capable de se réadapter très, très, très rapidement s'il y avait des variants plus problématiques qui apparaissaient.
Bon, ben, docteur Béliveau, vraiment, là, c'est mieux qu'un double espresso bien corsé. Je pense que je vais faire écouter votre entrevue en boucle à tous ceux qui sont non seulement sceptiques, mais un peu défressifs sur les bords. Que du côté positif, de l'optimisme, et aussi, surtout, je retiens deux choses de ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Premièrement, la solidarité du peuple québécois, et aussi, évidemment, la grande concertation du monde scientifique. C'est quand même deux exploits absolument extraordinaires. Ben écoutez, vous venez vraiment de remettre de la mine dans mon crayon. Je suis super contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Merci, docteur Béliveau.
Bonne journée.
Merci Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc vraiment, si vous avez des amis qui sont un peu déprimés, qui disent « Ah, il pleut, fait pas beau, ça va pas bien », faites-leur écouter cette entrevue-là avec Monsieur Béliveau, parce que vraiment, ça remet les choses en perspective. Des fois, ça fait du bien de prendre un petit pas de recul.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il n'y a pas de nom pour décrire le père. Celui qui porte son garçon au cimetière. Jamais un seul poète, un seul pasteur, jamais un seul auteur n'a eu assez de lettres pour tant de douleurs.
Cette chanson que vous venez d'entendre, ça s'intitule « Pas de mots », c'est une chanson de Linda Lemay et ça dit que dans la langue française, il n'y a pas de mots pour dire quand un parent perd son enfant. Quand on perd nos parents, on est un orphelin, mais comment trouver les mots pour décrire le deuil de son propre enfant. Et il n'y a pas de mots pour décrire cette douleur-là. La douleur de Marie-Pierre Savaria qui a écrit le livre « Justin n'avait que 8 ans » dans lequel elle raconte la mort de son fils Justin il y a maintenant 4 ans. Madame Savaria, bonjour.
Bonjour.
Je suis désolée de vous avoir fait jouer cette chanson-là. C'est que j'ai lu votre livre et que je sais que vous l'avez fait jouer, cette chanson-là, aux funérailles de votre fils. Comment ça se fait que dans la langue française, il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous avez vécu, la perte d'un enfant?
Oui, ça prouve à quel point c'est contre nature tout ça. Hein? C'est un événement qui n'a pas de sens et qu'il faut de tenter d'en trouver un, en fait. Mais effectivement, il y a encore et toujours pas de mots devant une telle épreuve comme ça, là.
J'ai lu votre livre et je dois vous avouer, Madame Savaria, que il fallait que je fasse des petites pauses parce que vous décrivez toute l'enfance de Justin, puis vous décrivez presque minute par minute la journée de son décès, minute par minute aussi cette lente réappropriation de la vie. C'est difficile pour nous de le lire, bien sûr, c'est extrêmement difficile pour vous de l'écrire. Est-ce que le fait que le livre soit sorti, que vous soyez allé à Tout le monde en parle, que vous donniez des entrevues, est-ce que ça vous aide à faire le deuil?
Oui, tout à fait. Le processus d'écriture de ce beau livre-là, en fait, c'est un beau concours de circonstances. Ça part d'une belle opportunité. Je me suis lancée dans tout ça il y a presque un an environ avec... beaucoup de désir et une belle grande volonté, mais en même temps une belle insouciance. C'était la première fois pour moi. Et oui, rapidement, je me suis rendu compte qu'en même temps, c'était un bel exercice thérapeutique. Autant il m'a ramené à tellement de belles choses, de beaux souvenirs précieux, de belles émotions. Et en même temps, effectivement, il a été très bouleversant. Et moi-même, de me surprendre à relire mes passages et d'avoir de l'empathie pour ce que j'étais en train de lire. Des fois, cette espèce d'impression-là que ça se peut pas que ce soit nous qui ayons traversé ça. Donc, en bout de ligne, au final, je me permets de me dire que c'est une belle grande fierté aussi de voir tout le cheminement, de voir toutes les étapes, de voir à tel moment où j'en étais rendue, ce qu'on a réussi à traverser ensemble ici en famille. C'est un mélange de belles émotions, oui, émouvant, mais une belle grande fierté et je le souhaite. Oui, j'ai eu des commentaires qui l'a fait beaucoup pleurer, mais qui l'a aussi fait rire et je le souhaite porteur d'espoir pour tous ceux qui pourront, qui peut-être le vivront ou qui vivent la perte d'un autre proche, d'un parent, d'un ami ou le deuil d'un événement qui peut être très marquant dans une vie. Je le voulais simple à lire aussi, que les gens puissent se reconnaître dans différents passages, dans différentes émotions vécues. Je le souhaite rempli d'espoir et on a toute la vie pour le lire. Je sais que parfois c'est mais des fois peut-être un petit chapitre à la fois et relire aussi des fois des passages qui peuvent faire du bien ou je le souhaite bon pour tout le monde.
Quand on commence le livre, c'est évidemment dédicacé à votre fils Justin et vous terminez cette dédicace à votre fils Justin en disant « Je suis honorée que tu m'aies choisi ». Vous pensez que votre fils, que les enfants choisissent les parents que la vie leur donne?
Je crois oui, sans prendre un grand sens spirituel, mais j'ai l'impression que Justin, en fait, ma belle édition spéciale, qui est partie évidemment beaucoup trop vite, mais en même temps, avec tout ce qu'il nous a légué, je me permets de me trouver choyée, qui m'ait choisie comme maman, vraiment. Je me trouve privilégiée et maintenant, c'est encore difficile, c'est certain, mais je me permets de le remercier. Remercier pour... autant, je me dis, la vie a été cruelle, difficile, mais en même temps, autant, elle me comble de différentes façons et je me permets de croire que c'est en grande partie grâce à lui.
Il y a, et je m'excuse, peut-être que vous allez trouver que c'est difficile que je vous ramène à ça, mais vous en parlez avec tellement de transparence dans votre livre, donc je trouve que c'est important aussi de revenir là-dessus. Vous parlez d'un moment où votre fils, donc, qui a eu cet accident dans une piscine où il a retenu sa respiration, il est transporté à l'hôpital, et là, vous savez que ça s'en va vers la fin et que les médecins seront pas capables de le sauver. Et la pensée qui vous vient, c'est « j'espère qu'il va partir vite ».
Ouais.
Vous dites que à un moment donné, vous avez ressenti une certaine culpabilité d'avoir pensé ça, mais en même temps, si vous étiez obstiné puis que vous lui aviez demandé de rester, ça n'aurait pas réussi à le sauver. C'est cette ambiguïté-là qui est importante. Et je trouve ça très transparent que vous ayez choisi d'en parler dans votre livre.
Oui, parce que, une grande culpabilité de lui avoir, et je lui ai chuchoté tellement ça souvent à l'oreille, là, à partir du moment que la pédiatre nous avait annoncé là, que c'était pratiquement irréversible, qu'on se laissait encore quelques heures, mais que les espoirs étaient très minces, et s'il y avait eu espoir, ben les handicaps auraient été très lourds, les conséquences de tout ça auraient été très, très lourdes. Justin, tellement grand physiquement, tellement actif, qu'il n'avait pas de minute à perdre, qu'il mordait dans la vie à pleine dents. On dirait que je voulais donc pas qu'il revienne dans un corps emprisonné. Alors, j'espérais que ce soit un départ rapide, qui ne souffre pas. Évidemment, on veut tellement pas que nos enfants soient conscients et souffrants d'une telle épreuve. Ils sont malades, ils sont fiévreux, on n'aime pas ça. Alors, c'est certain que mon instinct de maman était complètement chaviré. Et oui, à un moment donné, on dirait qu'on se dit, ben coudonc, est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça en lui répétant ça, mais en même temps, effectivement, ça n'aurait rien changé au niveau médical de ne pas lui avoir dit non plus, mais ça aussi, je trouvais ça important de le partager parce que c'est ça, la culpabilité prend tellement beaucoup de place, je trouve, en tout cas en tant que mère, en tant que parent. Donc, de se permettre de l'exprimer, c'est très libérateur.
Et en même temps, quand vous racontez ce moment-là, ça nous fait sourire parce que vous dites à votre fils, « Ben, t'auras plus jamais à faire de devoirs. »
Oui. Oui.
Je pense que tous les parents sont partis à rire en lisant ce passage-là, en disant « Mon Dieu, oui, on est tellement conscients que nos enfants, c'est leur la chose qu'ils haïssent le plus, faire des devoirs. » Donc, toute la lecture de votre livre, on est comme ça partagé entre un sourire et des larmes, et c'est la beauté du texte que vous avez écrit, Madame Savarian.
Exactement. Alors, c'est ça, on tombait dans la grande frénésie de la fin de l'année scolaire. Et c'est ça, Justin, ça allait bien à l'école, il aimait bien l'école, mais la période des devoirs, il aurait bien laissé passer. Il aurait facilement troqué ça contre un bâton de hockey, disons. Et oui, je me rappelle ça aussi, c'est très clair. Je lui disais, tu vas avoir congé de devoirs, tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, là, vraiment. Alors, je tentais de me convaincre et de le convaincre. Et oui, c'est ça, je voulais ça. Je le sais qu'il y a des bouts très bouleversants, mais en même temps, au risque de me répéter, il y a des beaux moments aussi.
Oui.
Je suis convaincue que les gens vont tellement se reconnaître au travers différentes lignes, là, c'est certain.
Tellement, tellement. Ouais. Écoutez, bien sûr, une des raisons pour laquelle vous avez aussi choisi de faire ce livre-là, c'est pour faire la promotion, d'une certaine façon, du don d'organes, parce que à la mort de Justin, il y a 4 enfants qui ont pu récupérer ces organes, donc cœur, 2 reins et 1 foie, si je me trompe pas. Comment vous expliquez, Madame Savarian, qu'il y a encore des gens qui sont réticents face au don d'organes? Comment on explique ça?
Oui, c'est très délicat, évidemment, c'est sûr. Nous, quand c'est proposé, nous, en tout cas, on a été très bien encadrés à l'hôpital ici à Sherbrooke, mais c'est proposé très délicatement et c'est en toute fin de traitement quand on sait qu'il n'y a plus rien. Mm-hmm. Mais en même temps, Justin était tout paisible. On a l'impression qu'ils font dodo. Évidemment, il est sous respirateur pour que tout reste en vie, tous les organes soient fonctionnels, mais c'est sûr que c'est difficile peut-être pour certains de les laisser aller, de se dire qu'on les partage en quelque sorte, mais en même temps, nous, au départ, peut-être c'était une réaction peut-être au départ très égoïste. Moi, ça m'assurait qu'il était encore présent. Je me disais, d'une certaine façon, il va être encore en vie, et il va encore grandir dans le corps de quelqu'un d'autre. Alors, nous, ça a été d'emblée, d'autant plus particulier qu'on en avait effleuré le sujet quelques minutes à peine, mais quelques semaines avant son départ, j'avais reçu son renouvellement de carte et on avait discuté ensemble. Il avait même apposé sa signature aux côtés des miennes. Alors, c'est sûr qu'en même temps, ça m'assure de son consentement. Donc, tout part, moi, je suis convaincue que tout part du fait d'être capable d'en parler, d'échanger, ne serait-ce que quelques mots en soupant auprès des proches, de faire valoir un peu nos volontés. Alors, c'est sûr que c'est terrible quand vient un événement comme ça, mais de savoir que notre proche c'était le souhait de notre proche, je pense que c'est la moindre des choses d'honorer ces demandes rendues là, mais c'est sûr que c'est encore méconnu, c'est encore tabou, c'est encore peu parlé. Moi, je l'ai vécu là après le départ, même des proches qui se permettaient de me questionner comment ça allait fonctionner et tout ça. Ben, tu sais, quand est-ce que vient la question? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment que tu dis oui? Alors, tu sais, on constate que c'est vrai, tu sais, on en connaît trop peu à ce sujet-là. Alors, c'est sûr qu'évidemment, plus on en parle, plus que les gens sont informés, ben plus que c'est facile de prévoir quelle décision on prendrait probablement.
Oui. Est-ce que vous pensez des fois que peut-être dans les rues de Sherbrooke ou ailleurs, que peut-être que sans le savoir, vous croisez un enfant dans lequel que le cœur de votre fils ou ses reins sont dans un enfant que vous croisez à l'épicerie ou dans la rue?
Peut-être, tout est confidentiel évidemment, mais on s'était fait dire là ce week-end-là, il y a presque 4 ans, que Justin avait sauvé 4 petites vies. C'était des enfants, évidemment, de la province. Alors, je sais pas si c'était plus loin que l'Estrie et tout ça, mais 4 enfants en bas de 8 ans. Alors que l'on sait en tout cas aux dernières nouvelles, en pleine santé, c'est sûr que c'est une grande fierté. On leur souhaite la meilleure vie, la plus longue à ces 4 beaux enfants-là, et encore plus loin, je pense aux parents de ces 4 enfants-là, je pense aux frères, aux sœurs, aux amis. Alors, ça fait beaucoup de monde que notre petit Justin du haut de ses 8 ans a réussi à sauver. Alors, c'est un très, très beau bond. Ça a contribué certainement à adoucir un petit peu dans le processus du deuil.
La préface du livre est écrite par Yannick, votre ami, chez qui, justement, votre fils est décédé parce qu'il s'en allait à la fête d'Eliott, le fils de Yannick. Et c'est signé Yannick et les membres de sa famille, donc son épouse, Laurence, et les enfants. Et j'ai remarqué qu'un des enfants s'appelait Isaac Justin. Est-ce qu'il s'est appelé Isaac Justin en hommage à votre Justin?
Mais je pense que oui, Laurence et Yannick ont un beau Eliott qui a le même âge que Justin, et une deuxième grossesse s'est faite attendre plusieurs années après, et Laurence a eu un beau petit garçon à l'été 2018, et ce beau matin-là du mois d'août, on avait reçu un message très tôt de Yannick comme quoi il nous présentait ce beau bébé garçon. Il le présentait sous le nom de Isaac Justin Poulain. Alors, ça avait été très, très émouvant parce que tout le long de la grossesse, ils avaient à leur choix gardé la surprise ou c'est du sexe du petit bébé à venir. Alors, on savait pas si c'était une petite fille ou un petit garçon. Et là, d'autant plus de ce beau prénom. Alors, oui, paraîtrait-il que c'est un beau clin d'œil à notre Justin. Alors, ça avait été bien émouvant tout ça. Ça nous touche beaucoup.
Oui. Vous dites dans le livre qu'il y a des moments qui sont plus difficiles pour vous.
Oui.
Dans quelques jours, ça va être la fête des mères.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut vous envoyer comme tendresse par le biais des ondes de la radio pour vous accompagner pour cette journée-là qui risque d'être un petit peu plus difficile que les autres?
Oui, c'est sûr, depuis ce temps-là, fête des mères, fête des pères. Justin est décédé le dimanche de la fête des pères, le fameux 18 juin 2017. Alors, c'est sûr que les événements, les fêtes ont pris des tournures très différentes, mais on se permet de prendre ça avec beaucoup de douceur, en petit cocon bien, bien tissé, mm-hmm. serré. Alors, plein d'amour et de légèreté et... on se permet, une fois ces journées-là traversées, de se féliciter, mon conjoint et moi. Alors, la vie se continue et on en a deux autres. J'en aurai certainement deux autres qui vont me combler de beaux petits bricolages et de plein de bisous. Alors, la vie me comble tout de même et je sais, Justin, je m'ennuie terriblement de lui toujours physiquement. Je pense tout le temps à lui. Je serai en train de l'accompagner à la fin de sa sixième année, mais en même temps, je le sens tellement près de moi avec ces belles choses qui se présentent à moi depuis quelque temps. Donc, je tente de me dire qu'il est pas loin quand même, malgré tout.
Ben, je pense qu'après les témoignages que vous faites ces jours-ci, je pense que en effet, le jour de la fête des mères, il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui vont avoir une pensée pour vous et pour votre conjoint, Benoît, évidemment, le jour de la fête des pères et donc pour vos deux enfants aussi qui ont survécu à la mort de leur grand frère. Et dans votre livre, vous racontez qu'il y a un de vos fils, je pense que c'est Émile, corrigez-moi si je me trompe, qui plaçait des lettres ou des petits témoignages d'affection pour son grand frère dans un coffre. Est-ce qu'il a maintenu cette habitude-là?
La boîte est toujours, la boîte est toujours à la vue ici. Au début, c'était plus fréquent. Maintenant, je remarque que c'est de moins en moins souvent. Maintenant, c'est Victor qui est en maternelle, qui commence à prendre goût à dessiner et à écrire. Alors maintenant, c'est Victor qui ajoute ses petites créations. Des fois, il me dit ça, c'est pour Justin. Alors, je les sens très... j'ai l'impression que c'est très significatif pour eux, que ça leur fait du bien. Alors, la boîte aux lettres est toujours ici. Puis, au pire, on ira en chercher une deuxième
si elle est remplie.
Oui, si elle est trop remplie, on ira en chercher une deuxième avec grand plaisir.
Madame Savaria, merci beaucoup. Bon courage pour la suite des choses et merci pour l'écriture de ce livre vraiment qui est bouleversant, qui est très bien écrit, qui part du cœur et c'est le plus bel hommage qu'une mère pouvait faire à son enfant. Et salutations à votre conjoint aussi, Benoît, qui m'a l'air d'être un gars vraiment absolument exceptionnel. Vous êtes vraiment tombé sur le bon numéro.
Je suis bien entourée, j'ai des hommes merveilleux dans ma vie. Je suis comblée, vraiment. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous, Marie-Pierre Savaria. Donc, son livre « Justin n'avait que 8 ans » qui raconte son deuil, difficile au début, et encore, bien sûr, aujourd'hui, mais un livre plein de lumière. Ne pensez pas que c'est un livre qui est uniquement sombre. Il y a plein de lumière, plein de soleil à travers les nuages dans ce livre-là.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Eh bien, coup de tonnerre, coup de théâtre, la ville de Montréal qui finalement va de l'avant. La mairesse Valérie Plante l'a annoncé ce matin. Nous allons de l'avant avec la désignation de la voie piétonne Camille Lorrain au campus 1000. Elle dit, après avoir pris connaissance du dossier, j'ai demandé que la voie piétonne porte le nom de Camille Lorrain. Tel que proposé par la Société d'histoire d'Outremont, il faut un petit peu revenir en arrière. C'est notre collègue Denise Bombardier qui a sorti cette histoire-là dans le Journal de Montréal, comme quoi la Société d'histoire d'Outremont avait proposé qu'il y ait une petite section piétonne qui porte le nom de Camille Lorrain, mais qu'on s'était fait répondre par la Ville de Montréal que non, on donnait des noms seulement à des femmes ou des personnes issues des communautés ethniques, des minorités. Alors, on va parler de tout ça avec mon collègue et ami Joseph Facal, qui est chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, tout un coup de théâtre, mais en même temps, c'est un petit peu trop peu trop tard, là. C'est quand même une énorme bourde de la part de la Ville de Montréal.
Oui, évidemment, c'est trop peu trop tard. Certains diront que faute avouée est à moitié pardonnée. Non, pas du tout. D'autres diront peut-être, Sophie, ah, mon Dieu, quelle énorme controverse pour une si petite histoire, une allée piétonnière. En fait, non. Je pense, Sophie, qu'on est là vraiment dans le cas type de ce qui peut sembler une petite histoire, mais porteuse d'une énorme signification, au voilà. sens que elle est révélatrice de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Je pourrais développer, si tu le souhaites.
Oui, vas-y. Vas-y. C'est pour ça qu'on a fait appel à tes lumières, pour nous éclairer. Parfait. Toi, okay. Être éveillé.
Écoute, d'abord, évidemment, il faut bien comprendre que derrière le jargon de la Ville de Montréal qui disait « ne permettrait pas d'intégrer plus de femmes et patati patata » en langage clair, c'est qu'on nous disait que ce qui était reproché à Camille Lorrain, la vraie raison, c'est essentiellement qu'il est un homme blanc. Bon, voilà. Curieusement, je soupçonne que les tenants de cette position sont probablement aussi ceux qui pensent que, ouf, homme ou femme, c'est une question de choix. Mais enfin, bon, peu importe, passons. Ça montre, je te dirais deux choses. D'abord, évidemment, ça montre la force, l'arrogance, l'inculture et l'insensibilité de tous ces gens qui, entre leurs deux oreilles, ont ce mélange toxique de cocktail multiculturaliste et wokiste. Mais, à mon humble avis, et c'est possiblement la dimension cachée de cette affaire, c'est que, en fait, moi je pense que dans l'administration Plante, il y avait un calcul électoral. Il y avait un calcul électoral. C'est-à-dire que ce parti courtise les gens issus des minorités ethniques non francophones. Et évidemment, ces gens, soit ne savent pas qui est Camille Lorrain, soit voilà. s'ils savaient qui était Camille Lorrain, père de la loi 101, il serait pour eux, évidemment, le diable en personne, le 666 Belzébuth. Donc, tu vois, ces gens sont habituellement contre tout renforcement de la loi 101, pour le libre choix de la langue d'enseignement, pour, évidemment, l'anglais. Et donc, elle aurait, comme on dit, marqué dans ses propres buts en allant de l'avant. Là, évidemment, sous la pression d'un certain nombre de commentateurs, elle n'a pas le choix. Mais à la base, il y a un calcul électoral. Et puis, Sophie, aussi, ce que je pense, c'est que si la réaction première de la Ville de Montréal, la réaction, si tu veux, indicatrice de son penchant naturel, si elle est celle-là, ça nous donne, Sophie,
ben voilà.
un avant-goût des résistances auxquelles va se heurter le gouvernement Legault s'il propose une réforme linguistique qui ne sera pas que cosmétique.
Voilà. Tu veux dire quand Simon Jolin Barrette va arriver avec sa réforme de la loi 101, si elle est le moindrement vigoureuse, si elle est le moindrement efficace, ben ça va Exactement. Faire bondir ces gens-là.
Exactement. Si les gens au pouvoir à la Ville de Montréal faisaient de l'urticaire à l'idée de nommer une petite allée piétonnière du nom de quelqu'un qui a déposé une loi il y a un demi-siècle, imagine ce que sera leur réaction quand Simon Jolin Barrette propose, s'il propose quelque chose d'un peu costaud, alors qu'évidemment, le pourcentage d'électeurs non francophones entre aujourd'hui et l'époque de Camille Loret a énormément augmenté. Ces gens maintenant pèsent lourd au plan politique à Montréal et dans la couronne métropolitaine. Imagine, imagine leur mobilisation si M. Jolin Barrette dit des choses un peu viriles sur l'affichage en français, sur la langue de l'enseignement, etc. On a beaucoup loué le courage de Camille Loret à l'époque. Eh bien, M. Jolin Barrette, il a intérêt à attacher sa tuque s'il va au-delà simplement de la petite mesurette cosmétique. Et là, Sophie, c'est là que le gouvernement est un peu piégé. Parce que si le gouvernement dépose une réforme linguistique faiblarde et cosmétique, il aura aussi sur le dos ceux qui, comme nous, venons de nous mobiliser pour Camille Loret. Donc, d'une certaine manière, ça annonce à quel point le gouvernement est, pardonne-moi l'expression anglaise, dans une espèce de « damn if you do, damn if you don't
». Oui, oui, tout à fait. Alors, je veux juste revenir sur le déroulement de tout ça. Donc, samedi, dans le journal, Denise Bombardier sort cette bombe que la ville de Montréal est même pas prête à donner un petit bout de trottoir, le nom de Camille Loret. Dans la journée, la mairesse de Montréal dit, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas moi personnellement, mais elle n'a rien dit sur les critères invoqués qui étaient on n'honore pas une femme et on n'honore pas quelqu'un des minorités ethniques. Donc elle n'a pas répondu sur le fond de la chose. Elle a répondu seulement d'un point de vue cosmétique en disant « ben c'est pas moi-même ». Denise a jamais dit que c'était la mairesse elle-même. Elle a dit que ça émanait du bureau de la mairesse. Donc, et je trouve ça très révélateur de l'attitude de Valérie Plante. Au lieu de dire elle aurait dû réagir tout de suite, dès le début, dès samedi, en disant « Je viens de prendre connaissance de l'article du Journal de Montréal, il est tout à fait inacceptable qu'on ne rende pas hommage à Camille Loret, et dès aujourd'hui, dès l'instant, je donne pour consigne à mon équipe d'aller de l'avant avec cette appellation. » Pourquoi on est rendu mardi?
Mais Sophie, moi je ne suis pas étonnée. Madame Plante n'a jamais rien de substantiel à dire sur les enjeux véritablement importants. Tout pour elle se réduit à gérer l'opinion publique et à livrer ce qu'on appelle des lignes de communication. Et si tu me permets aussi, puisque nous sommes sur le registre des petites choses porteuses de grandes significations, je crois que cette affaire est un autre cas qui illustre la faible place dans l'espace public, dans la toponymie, dans les rues, dans les statues, dans tout ce que tu veux, la faible place occupée par ces grands Québécois et Québécoises qui simplement ont choisi le camp souverainiste. Prends par exemple le cas de M. Parizeau, un des plus grands fonctionnaires du dernier demi-siècle, un premier ministre, véritablement un personnage historique. Qu'est-ce qui honore sa mémoire dans la toponymie de la ville de Montréal? Bien sûr, la Caisse de dépôt a donné son nom à son édifice principal, mais dans ce qui relève de la ville de Montréal, on a donné son nom à un tout petit parc au coin des rues Robert et Devigny, près des HEC, en face de la petite maison en briques où M. Parizeau a habité pendant si longtemps. C'est juste ça, pour honorer un des plus grands Québécois du demi-siècle, ça montre simplement, Sophie, à quel point l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ouais. Et maintenant, évidemment, il va y avoir toutes sortes de parcs autochtones. J'ai aucun problème avec ça. Mais, tu te rappelles, notre collègue Normand Lester disait, si on veut honorer davantage la présence autochtone, peut-on au moins respecter l'histoire et ne pas plier à des revendications, notamment Mohawk, qui veulent faire croire qu'ils étaient sur le territoire montréalais à l'époque, ce qui est factuellement faux.
Oui. Écoute, il y a quand même le boulevard René Lévesque, mais c'est vrai que, puis de toute façon, c'est vrai que rendu, est-ce que je me trompe ou rendu dans Westmount, ça s'appelle même plus René Lévesque? Ça s'appelle encore Dorchester, hein?
Absolument, quand on arrive à la partie Westmount, quand on rentre dans ce que René Lévesque lui-même appelait jadis notre petite Rhodésie, ça redevient Dorchester. Tu as tout à fait raison.
Bon, écoute, vraiment, bon, alors, on est partagé quand même. Il faut d'un côté, évidemment, reconnaître, bon, que Valérie Plante, mieux vaut tard que jamais, mais en même temps, quelle bourde politique elle a faite. Moi, je pense que vraiment, elle aurait... c'est pas quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur, c'est pas une administration que je porte beaucoup dans mon cœur, mais si samedi, aussitôt qu'elle avait pris connaissance de ce dossier-là, elle avait réagi, j'aurais été plus encline à lui pardonner, mais je trouve que le fait qu'elle ait mis autant de temps à réagir, écoute, on parle d'une petite portion de trottoir, c'est absolument hallucinant.
Sophie, c'est comme la première fois qu'un homme rencontre une femme ou qu'une femme rencontre un homme. On dit toujours, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première
impression. Une bonne impression, c'est vrai.
Voilà. Autrement dit, elle a corrigé le tir, mais la première réaction est toujours la plus révélatrice de la substance d'une personne.
Voilà. Écoute, merci beaucoup, Joseph. On se reprend jeudi. On va pouvoir parler de tes différentes chroniques. Je m'en excuse, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais t'en fais pas. On mettra les bouchées doubles jeudi prochain. Je voulais absolument avoir ta réaction à chaud là, à cette décision de la ville de Montréal, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et surtout toi, en tant qu'ancien, quand même, ancien péquiste, mais je pense que tu l'es encore.
Oui, ben j'aurais peut-être, qui sait, quand j'aurai crevé une petite ruelle à Laval quelque part.
Le plus tard possible, le plus tard possible. Et merci beaucoup, Joseph.
Au revoir, merci.
Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Rémi Poitras à la mise en onde, de la réalisation, William Boivin à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain.
Cube Radio.